Bonsoir et merci d'écouter RFI. Il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
L'heure de votre journal en français facile que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir avec Charlotte de Rouen. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et à la une, le pape François qui appelle les pays européens à s'unir pour accueillir les migrants. Il dénonce l'égoïsme et le nationalisme de certains membres de l'Union européenne, vous l'entendrez.
Emmanuel Macron termine ce soir sa tournée dans les pays du Golfe. Il était aujourd'hui en Arabie Saoudite où il a rencontré Mohamed Ben Salman. Beaucoup le critiquent pour avoir accepté de parler au prince saoudien, mis en cause dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Emmanuel Macron affirme qu'ils ont parlé du sujet des droits de l'homme.
Et puis elle promet de battre le président français au printemps prochain. Valérie Pécresse a été choisie cet après-midi par le parti Les Républicains pour être sa candidate à l'élection présidentielle. C'est la première fois qu'une femme défend la droite à ce scrutin. Tout savoir et tout comprendre, c'est le journal en français facile. Bienvenue.
Le journal.
En français facile.
En français facile.
Il dénonce hier les tortures et l'esclavage des migrants après un voyage de 2 jours à Chypre. Le pape François est arrivé en Grèce ce matin.
La Grèce qui accueille à elle seule une grande partie des migrants arrivés dans l'Union européenne. Le pape François dénonce, encore une fois, le manque d'action de l'Europe face à la crise migratoire et appelle les pays à prendre leur part.
Ce pays disposé à l'accueil a reçu sur certaines de ses îles un nombre de frères et sœurs migrants plus élevé que celui des habitants eux-mêmes, augmentant ainsi leurs difficultés alors qu'ils ressentent encore les conséquences de la crise économique. L'Europe pourtant persiste à tergiverser. La communauté européenne, déchirée par les égoïsmes nationalistes, apparaît parfois bloquée et non coordonnée, au lieu d'être un moteur de solidarité. Je voudrais exhorter une fois de plus à une vision globale et communautaire de la question migratoire et insister à prêter attention aux plus démunis afin que selon les possibilités de chaque pays, ils soient accueillis, protégés et intégrés dans le plein respect de leurs droits humains et de leur dignité.
Le pape François en Grèce qui dénonce aussi un recul de la démocratie, une marche arrière pour la démocratie et pas seulement sur le continent européen. Il affirme que la démocratie exige la participation et l'implication de chacun.
Et cela faisait 20 ans qu'un pape n'était pas venu à Athènes. Les relations entre l'Église catholique et les orthodoxes sont toujours compliquées. Pour le dernier jour de sa visite, lundi, 5000 policiers grecs seront mobilisés dans les rues de la capitale pour sa sécurité.
En France, Emmanuel Macron a ce soir une adversaire de plus pour l'élection présidentielle de l'an prochain.
Les adhérents du parti de droite, les Républicains, ont élu Valérie Pécresse pour être leur candidate au printemps prochain. Elle l'emporte à 61% contre 39% pour Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, plus radical, notamment dans ses opinions sur les migrants.
Et c'est la première fois qu'une femme représentera les Républicains à la présidentielle. Merci d'avoir eu cette audace, dit Valérie Pécresse, qui attaque déjà le président sortant. Nous allons tourner la page Macron, promet-elle. La candidate d'extrême droite du Rassemblement national, Marine Le Pen, l'accuse au contraire d'être Macron compatible. Elle invite les déçus à la rejoindre.
Emmanuel Macron, absent de la France ces 2 derniers jours, après un passage aux Émirats Arabes Unis. Hier, le président français est passé aujourd'hui par Jeddah en Arabie Saoudite, où il a rencontré le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman. Une rencontre critiquée, puisque MBS, comme on l'appelle souvent, est mise en cause dans l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi. Emmanuel Macron assure avoir parlé avec lui de tout, sans tabou. Il évoque un échange direct sur le sujet des droits de l'homme. Résumé de la journée avec notre envoyé spécial sur place, Valérie Gass.
Tout s'est déroulé au Palais Royal de Jeddah. C'est là qu'Emmanuel Macron s'est rendu après un accueil protocolaire par le ministre de la Culture et le gouverneur de la Mecque au pavillon royal numéro 1 de l'aéroport. Un pavillon tout en marbre, dorure et cristal réservé aux hôtes de marque. Le prince héritier Mohamed Ben Salman attendait lui, Emmanuel Macron, à l'entrée du palais et les deux hommes ont échangé une poignée de main à l'arrivée du président. Avant un déjeuner de travail avec les ministres français et leurs homologues saoudiens, Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman se sont entretenus d'abord en cercle élargi, puis en tête à tête. Cette visite, critiquée par les défenseurs des droits de l'homme, le président français l'a justifiée par la stratégie de la France qui veut être une puissance d'équilibre. Durant ces entretiens, Emmanuel Macron espère faire avancer les choses, notamment sur le dossier libanais, dans lequel il s'est beaucoup impliqué mais n'a pas réussi à obtenir de résultats concrets. Le président français espère que l'Arabie saoudite reprenne son aide au Liban, une aide nécessaire pour la population dont les conditions de vie se sont dramatiquement détériorées. Avec cette visite, Emmanuel Macron a donc pris le parti de jouer la carte saoudienne. Valérie Gas, Jeddah, RFI.
Dans l'actualité également, Julien, une explosion dans le ciel près d'une centrale nucléaire en Iran.
Oui, Charlotte, c'est arrivé ce soir. Une explosion entendue jusqu'à 20 km autour de la centrale. L'Iran explique que c'était un test militaire.
Et du côté de Vienne, les discussions sur le programme nucléaire iranien sont à l'arrêt pour l'instant.
Téhéran refuse toujours de respecter ses engagements pris en 2015 tant que les États-Unis n'auront pas levé leurs sanctions. Les États-Unis qui préviennent ce soir qu'ils ne pourront pas accepter un blocage des négociations. Ils espèrent que l'Iran sera bientôt prêt à négocier sérieusement.
On en parlait déjà hier soir sur RFI. La France et le Qatar ont organisé hier l'évacuation d'Occidentaux et de 258 Afghans.
Des Afghans et des Afghanes qui étaient menacés chez eux par les talibans en raison de leurs engagements. Depuis que les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan, beaucoup ont peur pour leur vie.
La communauté internationale s'inquiète aussi pour les droits des femmes. Et justement, le chef suprême des talibans a demandé hier au gouvernement de prendre des mesures sérieuses pour faire respecter ses droits.
Personne ne peut contraindre une femme à se marier, dit-il. Le mollah Hibatullah Akhundzadeh ordonne aux tribunaux, aux gouverneurs et à plusieurs ministères de lutter contre les unions forcées très courantes en Afghanistan. Explication de Sonia Ghezali.
Les talibans sont accusés de marier de force des femmes, dont des veuves, à leurs combattants. L'émirat islamique nie. Pourtant, certains hommes terrorisés avouent subir la pression de talibans souhaitant se marier à leurs filles. Plusieurs témoignages de femmes rapportés dans la presse internationale confirment que des pères de famille décident de donner leurs filles en mariage sans leur consentement à des talibans pour s'assurer leur protection. La misère dans laquelle est plongé le pays, privé d'aide au développement depuis la prise du pouvoir par les talibans, pousse des familles à marier leurs filles mineures afin de rembourser des dettes ou pour se nourrir. Le décret du chef suprême veut donc mettre un terme à ces pratiques qui semblent avoir pris de l'ampleur dernièrement. La militante des droits des femmes, Arbouba Seraj, salue ce décret, une première de la part des talibans, dit-elle. En effet, le mouvement fondamentaliste s'était illustré lors de son précédent régime, entre 1996 et 2001, par une oppression des femmes sans précédent. Arbouba Seraj ajoute cependant qu'elle attend aussi un décret sur l'éducation et le droit au travail des femmes afghanes. En effet, quelques femmes seulement ont été autorisées à reprendre le travail. Les collèges, les lycées, les universités sont encore largement fermés aux filles. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
RFI, 21h08 à Paris, en France, on apprend la mort d'un grand défenseur de l'environnement.
L'écrivain et philosophe Pierre Rabhi s'est éteint aujourd'hui à 83 ans. Il était le cofondateur du mouvement Colibri. C'était une figure de l'agroécologie, une pratique de l'agriculture plus respectueuse de la nature.
Et puis en Indonésie, des milliers d'habitants de l'est de l'île de Java ont dû fuir, encore une fois, leurs habitations.
Ils fuient le volcan Semeru, à nouveau en éruption. Laurent Difraya.
La région du Lumajang est plongée dans l'obscurité. Le nuage de cendres qui sort du volcan Semeru ne cesse de grossir dans le ciel. Les coulées de lave progressent dangereusement vers les villages. Un pont a même été détruit par les flammes. Les secours procèdent alors à des évacuations. Dans les vidéos qui circulent sur Internet, on voit les habitants paniquer, fuir leur domicile. Les autorités ont installé des abris dans plusieurs endroits de la région pour accueillir les sinistrés. Elles ont également établi un périmètre de sécurité de 5 km autour du cratère. La dernière éruption majeure de ce volcan date d'il y a tout juste un an. Situé dans la ceinture de feu du Pacifique, où plus d'une centaine de volcans sont en activité, l'Indonésie est habituée à ce genre de phénomène. Dans certains endroits de l'archipel, l'activité sismique est si importante que des tsunamis se déclenchent parfois en même temps que les éruptions. C'est ce qui s'était passé en 2018 entre les îles de Java et Sumatra. Plus de 400 personnes avaient alors trouvé la mort.
Laurent Difraya, c'est la fin du journal en français facile. Merci Charlotte.
Merci Julien et à demain.
À demain.
Le Club RFI.